Cette année encore, un événement très important va se dérouler samedi 5 juin à Marseille et sur les littorales, l'opération Calanque Propre sous l'égide de l'association Mère Terre. Pour exemple, en 2019, près de 2000 personnes et 80 structures furent mobilisées. Mère Terre apporte son expertise dans les méthodes de caractérisation des déchets sauvages diffus, des informations indispensables à l'association et à ses partenaires pour élaborer des plans de lutte ciblés contre cette pollution et également faire des préconisations aux pouvoirs publics locaux. Mère Terre a créé il y a 2 ans en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et avec le soutien de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et enfin du ministère de la Transition écologique, la plateforme Remède Zéro Plastique, réseau méditerranéen Zéro Plastique, un outil collaboratif centralisant les données de caractérisation des déchets ramassés par des milliers de volontaires. Remède rassemble et fédère à l'échelle de la région Sud toute organisation ou partie prenante souhaitant contribuer à la réduction des déchets sauvages qui aboutissent en Méditerranée. Il est à rappeler que la Méditerranée est la mer la plus polluée de la planète. À la suite du succès rencontré par Remède, la plateforme nationale Zéro Déchets Sauvages sera inaugurée le 8 juin prochain. Si vous souhaitez participer ce samedi à cette opération Calanque Propre, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur la page mer-terre.org. Et puis il suffit de cliquer par exemple sur Calanque Propre. En raison des consignes liées à la crise sanitaire, les jauges sont limitées. Il est donc recommandé de prendre contact avec les structures concernées par les lieux où vous souhaiteriez intervenir. J'ajouterai que vous trouverez tous les liens utiles sur notre page fréquencemistral.com. À l'onglet Manosque, vous trouverez tous les liens utiles. Donc, nous allons entendre Isabelle Poitou, qui est écologue, biologiste marin et docteur en aménagement et urbanisme et directrice de l'association Mère Terre. Isabelle Poitou, vous êtes directrice de l'association Mère Terre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que cette association ?
L'association Mère Terre a été créée en 2000. J'étais en train de faire une thèse et sur la thématique des déchets sauvages diffus qui aboutissent en milieu marin. J'ai compris à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'organisation en France spécialisée pour centraliser les données scientifiques sur ces déchets solides et visibles à l'œil nu. Et que il n'y avait pas de politique globale concertée, donc je me suis dit bon, il faut absolument faire quelque chose, c'est trop sérieux, donc voilà, je me suis lancée, j'ai créé l'association et me voilà aujourd'hui encore à œuvrer au sein de cette même association.
Vous êtes nombreux.
Alors on est 3 salariés et ensuite il y a une vingtaine d'adhérents. Et sinon, on participe à des opérations où nous coordonnons des acteurs, en fait, et on anime une communauté, et certaines associations vont adhérer à Mère Terre, d'autres non. Mais en fait, on anime une communauté d'acteurs.
Vous parlez de déchets diffus, de quoi s'agit-il ?
On les appelle diffus parce que ce sont des déchets dispersés qui ont l'air inoffensifs, comme le mégot de cigarette négligemment jeté par terre, ou l'emballage, le paquet de bonbons, de friandises, de fast-food ou autre. Tous ces petits objets du quotidien qui ont l'air de rien, qui, mis bout à bout, génèrent une espèce de marée de plastique qui aboutissent en mer après les pluies ou quand on nettoie les rues ou avec le vent. Et finalement, tout ça, le récepteur final, c'est le milieu marin, les milieux hydrographiques aussi, les cours d'eau. Et en fait, ils polluent énormément. À la fin, c'est une vraie marée plastique, mais c'est vraiment insidieux, quoi. C'est une bombe à retardement. Les gens se rendent pas compte qu'ils contribuent tout seuls parce qu'ils sont seuls, justement, et ils disent pas, c'est pas grave, parce que, de toute façon, c'est qu'un petit morceau de plastique ou mégot de rien du tout.
Apparemment, la Méditerranée serait une mer extrêmement polluée.
Oui, c'est la plus polluée du monde, hein. On retrouve des concentrations équivalentes à ce qu'on retrouve au milieu de ces fameux gyres océaniques qu'on appelle des continents de plastique, hein, qui sont pas des continents solides, hein, bien sûr, mais on les a appelés comme ça. C'est même plus pollué qu'au centre de ces grands gyres océaniques, c'est-à-dire ce sont des courants marins qui centralisent les déchets ensuite au centre, hein, c'est des lois de dynamique des masses d'eau. Et la Méditerranée est plus polluée qu'au centre de ces fameux courants marins. C'est un bassin de vie qui est très très riche avec des comportements, de la gestion des déchets qui est pas toujours au top. Et nous-mêmes, Méditerranée, au nord de la Méditerranée, on est soi-disant l'un des pays les plus modernes et avancés. Et malgré tout, on continue à se comporter en jetant nos déchets par terre et en les laissant négligemment traîner de tous les côtés. Et finalement, on contribue aussi largement à la pollution de la Méditerranée en France.
Sans vouloir faire de polémique, on peut même ajouter que peut-être les instances nationales ou régionales ne font pas toujours le jeu. Je pense particulièrement aux boues qui sont évacuées depuis des années dans la mer, à moins que je me trompe.
Alors là, on est sur les boues, c'est pas le sujet sur lequel nous travaillons précisément. On travaille sur les macro-déchets, c'est les déchets sauvages, les déchets solides et visibles à l'œil nu. Après, le sujet que vous soulevez, il est complexe, hein. C'est un scandale, mais il y a plein d'autres scandales. En fait, tout ça, c'est l'héritage d'un développement industriel un peu anarchique, sans contrainte pendant de longues années. Et il faut réussir à changer une manière qu'on a eue d'agir et de faire pendant de nombreuses années. Et c'est ça qui est pas facile, parce qu'on a développé tout un système, notamment socio-professionnel, technologique, qui est fondé sur des procédures qui sont polluantes. C'est en ce moment qu'on est dans cette fameuse transition écologique qui consiste à translater, à transférer des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs développés vers des activités qui soient moins polluantes. Mais ça se fait pas en deux secondes. Et puis, il y a des résistances. Évidemment, il y a des très grosses résistances de systèmes qu'elle a depuis longtemps. Et puis, en plus, sur les anciens, enfin, sur les gens qui sont implantés et qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est pas évident. Hein.
On peut parler de chantage économique,
oui,
parfois.
Oui, bien sûr. C'est vrai que le développement durable, il y a le pilier de l'économie qui est en jeu, quoi. C'est souvent lui qui l'emporte, hein.
Vous êtes à l'initiative d'une grosse opération qui aura lieu à partir du 5 juin prochain. Il s'agit de la 18e édition de Calanque Propre.
Alors, Calanque Propre, c'est une opération qui existe depuis bien longtemps, mais qui n'avait pas forcément la même forme. Ça a commencé en 1993 avec l'Union Calanque Littoral, avec Mountain Wilderness, qui organisait cette opération, mais elle n'avait pas exactement la même formule qu'aujourd'hui. Il y a également ensuite la mairie d'Ensues-la-Redonne qui a organisé ça à partir de 2002. Et puis en 2003, il y a Marseille Horizon, une asso marseillaise, qui en a eu marre de voir ses déchets partout et a décidé de fédérer les opérations de nettoyage dispersées. C'est-à-dire qu'il y en a depuis très longtemps des opérations de nettoyage par des sociétés nautiques et d'autres acteurs. Et là, l'idée, c'est d'unir nos forces et de renforcer le retentissement du message. Donc, j'ai rejoint l'opération en 2005. Calanque Propre, qui essaye de fédérer et unir les forces, a commencé en 2003. Et en 2008, de fait, j'ai été un petit peu désignée d'office pour reprendre la coordination de l'opération. Et depuis, comme c'est mon métier, je fais ça toute la journée. Enfin, voilà, c'est vraiment le chantier sur lequel on est, de ramasser les déchets sauvages diffus et d'empêcher qu'ils ne soient jetés. Voilà, ça s'est développé aujourd'hui. Enfin, l'année dernière, on était un peu moins nombreux, mais les années d'avant, on a atteint à peu près 2000 personnes et 80 structures. L'année dernière, avec la crise, on était plus qu'à 53, mais cette année, on remonte un peu.
Alors pratiquement, comment ça va se passer ?
Comment ça se passe ? En fait, il y a plein d'acteurs, des associations qui sont implantées et qui coordonnent d'autres acteurs. On a des têtes de réseau, comme ça on les appelle. Donc on a les Perles de la Côte Bleue qui coordonnent sur l'ensemble des communes de la Côte Bleue. Avec les communes, on a en Suesse, Saussay, Martigues, enfin il y a les communes aussi hein, qui participent, la ville de Marseille, et également des associations dans les Égalades avec la Cité des Arts de la Rue. On a sur le Frioul des acteurs également qui sont présents. Il va y avoir des acteurs, nous on est basé à la Maronnaise, Merterre est basé à la Maronnaise, à la Baie des Singes, le parking sera à Fort Napoléon parce qu'on peut plus descendre en voiture. Il va y avoir des sociétés nautiques implantées un peu de partout. Donc, les rendez-vous pour comprendre et pour connaître ce qui se passe, on utilise une plateforme de science collaborative que Merterre a créée avec le soutien de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, du ministère et en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Cette plateforme, elle s'appelle Remède Zéro Plastique, zéro en toutes lettres. Et elle permet de voir les opérations de nettoyage qui vont avoir lieu et de contacter les structures en fonction des endroits où on souhaiterait se présenter. Évidemment, on a des jauges limitées à cause de la crise sanitaire, donc on ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc, il faut prévenir les gens avant de venir. Il faut prendre contact avec les structures, prendre contact avec nous si vous voulez venir, si certains auditeurs veulent venir à la place de la Maronnaise avec nous, parce que évidemment, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Hein. C'est un petit peu particulier encore cette année. Et voilà, donc on va ramasser toute la matinée. On invite tout le monde, tous les participants, à caractériser avec une méthode standardisée, parce que l'objectif est de faire remonter de la connaissance, d'apporter des outils comme un tableau de bord pour les pouvoirs publics, pour le Parc national des Calanques, pour les gestionnaires, pour comprendre où sont les déchets, quel type de déchets présents, comprendre et analyser du coup la source géographique, parce qu'on a des flux de déchets qui peuvent descendre. On peut aussi comprendre les secteurs d'activité économique concernés et grâce à cela, accompagner et définir des plans de réduction préventifs, c'est-à-dire sensibiliser, accompagner au changement en amont de la production de ces objets, peut-être trouver des alternatives au plastique, le vrac et tout, enfin voilà, essayer de développer des quartiers un petit peu plus vertueux. Et puis de l'autre côté, voir les zones où il y a les déchets, les zones où les déchets s'accumulent, et évidemment, bah, essayer d'organiser une gestion plus régulière. On a un problème d'entretien des rochers, des digues, et ça, on aimerait bien avec la métropole essayer de trouver une solution, parce que on voudrait, nous, on veut pas faire Calanque propre toute notre vie, quoi. On aimerait bien que ça s'arrête un jour. Hein. C'est pas à nous de continuer à ramasser les déchets comme ça sur des zones publiques. Hein. Un océan de vie de René Heuzé va coordonner et coordonne les plongeurs, donc il va y avoir aussi des interventions sous-marines. Il y a des apnéistes et des nageurs également, merveille. Il va y avoir des associations comme le CPIE Côte-Provençale à La Ciotat. Sur Saint-Cyr-sur-Mer, là, cette année, on va jusqu'à Saint-Cyr-sur-Mer avec Watch the Sea. Donc, il y a vraiment des randonneurs, il y a des excursionnistes marseillais qui sont avec nous depuis des années, le Parc national des Calanques, l'ONF qui accueille des acteurs, il y a les Scouts de France. En fait, c'est formidable la diversité des structures et du type d'acteurs qui s'engagent auprès de l'association Mer Terre. Et on fédère comme ça de nombreuses personnes et toutes les générations et tous les secteurs économiques confondus. Il y a des entreprises aussi qui viennent, il y a des hôtels, il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est humainement, c'est super riche, c'est bon de faire des choses ensemble. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Donc, on n'est pas seul. Oui, il y a plein de gens qui se mobilisent. Il y a plein de gens qui ont envie que ça change. Et ça fait du bien. Et ouais, ça nous redonne un petit coup de boost dans une période qui n'est pas géniale.
Des adresses sur lesquelles les gens pourraient se rendre sur Internet pour s'inscrire ou prévenir ou pour ce fameux samedi 5 juin.
Alors, le site de l'association Mer Terre, c'est mer-terre.org et remède zéro en toutes lettres, plastique.org pour regarder, trouver sur la carte des actions. En sélectionnant Calanque propre, on peut filtrer la carte. Il est possible de retrouver toutes les opérations associées à l'opération Calanque propre.
A priori, ça devrait commencer à quelle heure, le 5 juin ?
En général, les rendez-vous sont à 9h. Sur les sites, ça dure la matinée. Après, on trie, on caractérise les déchets. Et puis, bon, bah, après, on sort le pique-nique du sac, hein, sans trop d'emballage, bien sûr. Évidemment, là, on est restreint en nombre. On ne doit pas être de plus de 10 rassemblés. Donc, on va faire des groupes. Voilà, on va avoir tout le monde porte son masque. On est vraiment dans le respect des consignes et on diffuse ces consignes à tout le monde. On a la police qui veille sur tout ça. Voilà, donc on n'est pas rassemblés trop nombreux, on fait attention aux gestes barrières et également à protéger la faune et la flore parce qu'on est dans des espaces naturels fragiles et donc on va se comporter en n'aggravant pas la situation.
Et vous allez donner une conférence de presse samedi ?
Oui, à 11h sur la plage de la Maronnaise. Enfin, c'est pas sûr, mais devant la plage de la Maronnaise.
L'important aussi, c'est de donner une résonance la plus forte possible à ces opérations.
Oui, l'idée, en fait, l'objectif de l'opération Calanque propre, c'est, en unissant nos forces, c'est d'augmenter la capacité de toucher, d'augmenter le retentissement et la puissance du retentissement de ce type d'opération, parce que les médias s'intéressent mieux à des choses un peu plus spectaculaires. C'est aussi l'objet de l'opération Calanque propre, c'est d'unir toutes ces forces dispersées et de sensibiliser, d'informer, d'alerter les gens en général. Hein, il y a encore 70 à 80% de la population qui continue à jeter son déchet par terre sans se soucier des questions d'environnement. Ils ont certainement beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres choses à gérer. Ça s'entend très très bien. Donc nous, notre souci, c'est de réussir à toucher ces gens-là. Comment est-ce qu'on fait pour toucher ces gens-là ? Donc cette opération, grâce aux médias, est relayée. On aimerait bien avoir des influenceurs qui s'intéressent au sujet sur les médias sociaux. C'est une vraie cause, c'est un sujet sérieux, important. Les mégots de cigarettes, c'est un fléau. Et on continue encore en 2021 à jeter son mégot par terre. C'est absurde, c'est un truc incroyable parce que c'est un déchet toxique, c'est extrêmement polluant. Et ceux qui vont jeter leur mégot par terre vont crier, vont insulter quelle grosse boîte d'hydrocarbures ou de pétrole s'il y avait une marée noire, alors qu'en fait tous les jours ils contribuent à une marée de mégots, quoi. C'est vraiment le côté c'est pas moi. Moi, je jette jamais mon déchet sur la plage. Oui, mais non, quand tu jettes ton déchet par terre, tu contribues à une pollution du milieu marin parce que il y a un lien direct entre le milieu marin, le milieu terrestre et le milieu marin. Quand il pleut, quand l'eau s'écoule, nos réseaux pluviaux, ils sont pas raccordés à la station d'épuration. Ils vont être directement rejetés en mer, sauf dans les hyper-centres-villes des vieilles villes de France où on a un réseau unitaire entre les eaux domestiques de la maison et les eaux pluviales. Et là, quand il pleut très très fort, c'est pour ça qu'on a fait à Marseille ces grands bassins de rétention des eaux d'orage. Mais en dehors de cette hypercente, toutes les eaux pluviales descendent à la mer. Il y a juste des dégrieurs pour empêcher les gros trucs de partir. Mais de toute façon, il faut que l'eau s'écoule. Quand on a des pluies torrentielles comme on connaît chez nous, il faut absolument que l'eau s'écoule. Tout part à la mer. Et puis parfois, même en centre-ville, quand il y a trop d'eau, ils sont obligés d'ouvrir les vannes et ça s'en va, quoi. Cette année, on va produire, on a commencé en 2003, donc ça fait, oui, c'est ça, la 18e opération, mais on a des données depuis 2005. Et en fait, on va sortir un rapport un petit peu plus détaillé. Tous les ans, on sort un bilan et un rapport et on voudrait monter un peu au créneau, essayer d'aller à la rencontre des pouvoirs publics et d'avoir des résultats plus visibles parce qu'on trouve pas aujourd'hui suffisamment d'évolution positive, de diminution de ces déchets. Ça fait des années qu'on fait ça et tous les participants commencent un peu à se fatiguer en se disant « mais on va pas faire ça toute notre vie, il faut absolument que ça change ». Donc on a envie d'unir nos forces pour aussi aller rencontrer les pouvoirs publics pour essayer de trouver des solutions ensemble. On n'est pas là pour accuser, on n'est pas là pour s'opposer, mais au contraire pour accompagner. Et avec ces données, ça, on est plus intelligent, on comprend mieux ce qui se passe et donc on peut mieux définir des plans de prévention et des plans d'action de restauration des milieux.
Oui, donc à la suite des recensements que vous faites lors de ces opérations comme celle de samedi justement.
Voilà, c'est ça.
Comment sont caractérisés vos déchets ?
On classe par matériaux, par type de matériaux, plastique, verre, carton, papier, métal, comme ce que font les collectivités territoriales quand elles mesurent, elles comptent leurs déchets. Ils ont des statistiques à faire. Donc, on utilise les mêmes. On va compter, il y a plusieurs niveaux de caractérisation des déchets. Quand on fait des opérations comme ça, on prend le niveau 2 dans notre plateforme. Ça veut dire qu'on va demander aux acteurs qui font l'opération de sortir du sac les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium, les pneus. Et s'ils le souhaitent, s'ils ont le courage, les mégots de cigarettes et les masques Covid. Parce que ça nous permet de pointer du doigt que malgré le fait qu'on ait mis en place des bornes de collecte de déchets, qu'on a mis en place tout un tas d'organisations pour récupérer ces bouteilles, et bien finalement, on continue à en trouver dans l'environnement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne suffit pas. Il y a peut-être encore d'autres efforts à faire. Et puis, ça continue depuis des années. Donc, il y a une amélioration. Je sens qu'on arrivait à une limite du système qu'on utilisait, qu'on avait jusque-là, pour sensibiliser, toucher les gens. Et je pense qu'il faut qu'on avance d'un cran. Et je pense que la collectivité, les collectivités, les élus, les décideurs, la police, le système juridique a également, on a tous ensemble un effort et une marche à monter là pour que l'ensemble du système y réponde aux problèmes. Et donc, on a pris comme ça des objets emblématiques. Et ça permet de mesurer, puisqu'on fait ça depuis des années, on mesure la progression ou pas des actions, des politiques de sensibilisation. Donc là, ce qu'on trouve, c'est que ça nous permet de cibler, de montrer qu'il y a des efforts encore à fournir et ce qui est fait ne suffit pas. Donc il y a encore de la créativité, de l'innovation à trouver dans la manière de toucher et de faire changer les comportements, mais également des producteurs, parce qu'en fait tout ça va désigner le niveau 4 et le niveau 3 de nos protocoles de caractérisation, quantitatif et qualitatif, vont aller mesurer chaque objet. Et ensuite, ils sont classés par secteur d'activité économique, ce qui nous permet ensuite d'aller nous adresser directement ou travailler avec Citeo et également avec les gros producteurs, distributeurs de ces objets consommés. Hein, derrière, évidemment, on a les comportements des gens, mais si s'ils n'étaient pas hyper emballés, s'il n'y avait pas du plastique partout, évidemment, on n'en mettrait pas partout non plus. Donc, il y a une responsabilité partagée, et on veut absolument que les industriels prennent leur part de responsabilité. Parce que ils mettent sur le marché des objets polluants, et normalement, ils n'ont pas le droit. Il y a une réglementation aujourd'hui qui dit que un fabricant, un distributeur ne peut pas mettre sur le marché un produit polluant. Et ce plastique, en fait, est polluant. Il se dégrade en microparticules, il y a plein d'adjuvants, il y a plein de molécules chimiques qui ont des formules magiques là, qui gardent bien sous le coude. Personne ne sait exactement de quoi sont composés ces plastiques. C'est des milliers de molécules, hein. Il n'y a pas un plastique, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des grandes familles, mais ensuite, à l'intérieur, il y a encore beaucoup de molécules différentes utilisées par les fabricants. Tout ça, ce sont aussi peut-être des pollutions à retardement. On ne sait pas ce que ça peut faire sur nos organismes et sur les écosystèmes. Et en plus, il y a les microparticules de plastique qui sont générées ensuite par ces plastiques. Donc oui, c'est une pollution majeure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à tout plastifier sous prétexte qu'on fait du business et on gagne beaucoup d'argent et qu'il y a un système économique derrière et socio-économique? Non. Non, on doit prendre nos responsabilités. On est, voilà, la population humaine a atteint l'âge adulte. On est responsable, conscient, intelligent, et en général, l'humain s'est toujours adapté hein, aux situations qu'il rencontrait. Là, il a lui-même généré des situations de crise, de risque, de baisse drastique de l'espèce humaine. Hein. On est vraiment arrivé à un point de non-retour, hein, et si, il est encore possible de limiter les dégâts, et c'est notre responsabilité à tous, et les industriels ont une énorme responsabilité dans tout ça. Alors nous, en tant que consommateurs, oui, on peut infléchir et changer les axes de développement hein, vers où la société va se développer, puisque c'est un peu nous qui décidons en choisissant d'agir et d'acheter ça ou plutôt que ça. Et les industriels, eux, doivent aussi prendre leur part de responsabilité et anticiper. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont jusqu'au bout. Et c'est ça qui est insupportable. La population, nous, on est un petit peu pris en otage, en fait, hein, dans un système. On pose un petit peu dessus la responsabilité du comportement, mais tout ne repose pas sur nous. Puis il y a vraiment plein de gens qui sont très, très loin de ces préoccupations environnementales. Quand on voit ce que nous ramassons, nous, la majorité sont des emballages de fast-food, de friandises, de sucreries, de boissons sucrées. On trouve pas d'emballage bio, voyez. C'est-à-dire que les objets que nous trouvons sont issus de consommateurs qui n'ont pas du tout le geste qui va respecter leur propre corps. Les mégots de cigarettes, c'est pareil. L'alcool, on trouve énormément de bouteilles de bière, une fameuse marque locale. Donc, en fait, les objets que nous trouvons sont abandonnés par des gens qui ne se respectent pas forcément eux-mêmes, qui n'ont pas un rapport à leur propre corps. C'est-à-dire que l'écologie humaine, personnelle, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette conscience-là parce qu'ils ont certainement d'autres chats à fouetter. Hein. Ça, je ne vais pas leur jeter la pierre. Et l'écologie est réservée à, comme on dit, certains secteurs de la population qu'on appelle un peu les bobos. Je trouve un petit peu négative, mais bon, heureusement aussi qu'il y a des prises de conscience et qu'il y a des gens qui commencent à changer de comportement. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour toucher et pour réussir à faire en sorte que ces consommateurs développent un rapport à eux-mêmes qui soit plus respectueux, qu'ils ne se fassent pas bananer par les annonceurs en pensant que en achetant y a aussi la responsabilité de la publicité et de voilà les annonceurs les distributeurs ils veulent qu'on achète leurs produits quoi.
Le greenwashing.
Oui, vous savez Coca-Cola finance une magnifique plateforme qui s'appelle Un geste pour la mer et derrière ils vont du coup encourager les associations à ramasser les déchets à leur place. C'est scandaleux, c'est vicieux. C'est vraiment vicieux. Et y a eu un reportage de Cache Investigation où moi-même j'ai été targuée de faire le lit des distributeurs parce que on utilisait les sacs gestes propres pour ramasser les déchets par terre. Et du coup, on encourageait, on collaborait au système en ramassant les déchets pendant ce temps-là, les industriels ils continuaient à produire et il y avait Coca-Cola qui était pointé du doigt. Et moi, j'ai passé ma journée à expliquer à la journaliste que nous caractérisons les déchets pour remonter aux distributeurs, aux fabricants, aux industriels, donc Coca-Cola, et que c'était notre boulot parce que cette pollution n'était pas mesurée encore à l'époque. Moi, je suis scientifique. Et je veux apporter une connaissance scientifique, et c'est grâce à la connaissance qu'on met en place des plans d'action. Et c'était une pollution qui n'était même pas mesurée. Et donc, en fait, après c'est ce cache investigation, curieusement, tout d'un coup, on a une plateforme qui émerge, qui sort, et Coca-Cola, il a tout compris. Et ben, il fait justement cette fameuse plateforme pour que ces associations gentilles, on nous a vraiment pris pour des andouilles, hein. Et j'ai trouvé ça très malhonnête de la part de Cache Investigation, parce qu'il y a des gens fabuleux, merveilleux, des associations courageuses, des gens engagés qui donnent de leur temps, de leur énergie pour aller ramasser les déchets des autres, mais ça devrait être salué, encouragé, félicité, et on a été ridiculisé. Et j'ai trouvé ça, mais honteux. Alors, je suis pas montée au créneau parce que je suis fatiguée, et je me bats contre plein de... C'est un combat permanent, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que les médias nous aident, il ne faut pas qu'ils nous enfoncent.
Vous disiez que vous étiez scientifique, quelle est votre formation, Isabelle ?
Je suis biologiste marin, j'ai un DEA, et j'ai un doctorat en aménagement et urbanisme. Donc en fait, j'ai fait une thèse sur les deux angles, celui des sciences dures, comment je mesure, comment j'évalue une pollution, et celui des sciences sociales et politiques, comment est-ce que la société gère le problème. Donc j'ai mis un peu de temps à faire ma thèse parce que j'ai cette double formation. Et il faut cette double formation. Aujourd'hui, je suis écologue et ma spécialité, c'est de comprendre les socio-écosystèmes qui produisent les pollutions. Et je travaille sur cette question des déchets sauvages diffus, qui est un outil éducatif, qui est un outil pédagogique. C'est vraiment un cas d'école des pollutions parce qu'ils se voient. Et ils permettent, si on les éclairait la nuit... de voir la solidarité terre-mer. C'est vraiment, voilà, moi, individu tout seul, je fume, je mange mon Raider, j'en sais rien, je jette mon objet, qu'est-ce qu'il devient ? Et en fait, en caractérisant, en mesurant ces déchets, en ayant de plus en plus de données, je peux comprendre la source et l'origine et comprendre le socio-écosystème qui est à l'origine. Et mon travail, c'est d'influencer, c'est d'agir sur les... Je suis une courroie de distribution et un catalyseur. C'est-à-dire qu'on va aller influencer et faire changer les gros nœuds, les gros points. Dans un corps, il y a les glandes endocrines. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben, nous, on est un peu des glandes. On va aller essayer d'agir dans la société aux endroits où il y a un pouvoir de changer les choses. Donc, on va aller voir les pouvoirs publics, les élus locaux, les décideurs locaux. On va créer cette plateforme de sciences collaboratives. Donc, ça aussi, c'est un point important. Le 8 juin prochain, nous sortons, elle est déjà sortie, hein, mais on va communiquer et lancer un petit peu une campagne de communication là-dessus. Nous avons créé, avec le soutien du ministère de la Transition écologique, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, et financé aussi par la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a permis de créer le plateforme pilote. Hein. Nous créons zéro déchet sauvage, zéro-déchet-sauvage.org, qui est la plateforme nationale de sciences participatives qui permet de fédérer tous les acteurs engagés, unir nos forces pour coordonner nos actions, être plus intelligents ensemble, savoir qui fait quoi, où et quand. En termes de collecte et de ramassage de ces déchets sauvages diffus, nous proposons toujours ces méthodes standardisées de quantification et qualification de ces déchets que nous ramassons. Nous analysons ces données, nous allons sortir des data visualisations automatiques. Et cela permet donc de comprendre à l'échelle nationale, également dans les territoires d'outre-mer, d'où viennent ces déchets et d'accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de plans d'action. Mais des plans d'action qui vont permettre de prévenir, de sensibiliser, de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets, moins de produits, moins de pollution générée par le système, et également de comprendre dans nos territoires où sont les zones d'accumulation, où est-ce que la nature va déposer les déchets, parce que quand il pleut très fort, on a dans les cours d'eau des méandres et des zones d'accumulation, on va avoir sur les bords de mer aussi des courants marins qui vont venir ramasser les déchets, les rassembler dans un endroit, et puis sinon on a des endroits où les villes, les centres-villes, les cafés, voilà, il y a des endroits où il faut prioriser des actions de sensibilisation ou des actions curatives avec avec la police, pourquoi pas, des caméras. Enfin, voilà, il y a tout un truc à faire, toute une organisation de la société qui doit enfin prendre au sérieux et montrer que c'est sérieux et que c'est grave, que ces déchets diffus n'ont pas à continuer à être jetés comme ça partout, négligemment. On s'en fiche, après nous le déluge, et derrière c'est la mer qui trinque. Donc voilà. Ces plateformes, ce sont des outils, des tableaux de bord, c'est des supports sur lesquels nous allons tous nous appuyer, et nous unissons nos efforts et on centralise aussi des outils, de la ressource, des outils éducatifs, pédagogiques, des articles scientifiques, enfin voilà. Et puis on crée une communauté, on se rassemble régulièrement et on accueille toutes les bonnes volontés et on est enchanté, content que ça sorte enfin, et on espère qu'on va avoir une longue vie. En fait, non, il faudrait pas du tout qu'on ait une longue vie. En vrai, il faudrait qu'il y ait plus de déchets, qu'on ait plus besoin d'exister, et qu'on ait réussi notre boulot, et que là, on serait content.